prie pour toi.
D'accord. Merci Seigneur pour Christian. Bénis-le dans cette prédication. Merci pour ce que tu as déposé dans son cœur et pour cette parole vivante et fraîche que tu veux nous apporter aujourd'hui. Que nos cœurs soient grands, ouverts aussi pour non seulement entendre, écouter, mais recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir. Amen.
Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. C'est un grand privilège pour moi d'apporter ce soir la parole de Dieu. Et nous allons commencer par une vidéo. Je pense que ça va être difficile pour vous de découvrir quel sera le thème de mon message, mais vous allez le comprendre dans la suite. Je voudrais au passage dire merci à l'équipe technique. Vous êtes de ceux qui êtes derrière, on ne vous voit pas, mais le Seigneur vous voit et on vous remercie pour votre fidélité dans votre engagement. Merci à l'équipe du son, vous êtes fantastiques. Voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Est-ce que vous avez découvert le thème de mon message? De quoi est-ce que je vais parler? Pardon? Du monde? De la lumière de Dieu? De l'Apocalypse? Alors, je vous donne le thème. Vous êtes assez proche, mais pas encore tout à fait. Le thème sur lequel je vais vous parler ce soir, c'est David qui s'engage dans des compromis. Et il va y avoir à plusieurs périodes de sa vie une éclipse dans sa foi en Dieu, d'où cette éclipse que nous venons de voir ce soir. Et vous allez découvrir comme différentes choses progressivement l'amènent à éclipser sa foi au profit d'autre chose. Voilà. Lorsque nous parlons de David, nous pensons tout de suite à ce témoignage que Dieu lui-même rend de son serviteur. Est-ce que vous savez qu'est-ce que nous entendons de la part de Dieu lui-même par rapport à David ? Il était un homme selon le cœur de Dieu. Et ça, c'est impressionnant. On aimerait tous entendre ce même témoignage de la part de Dieu. Tu es une fille, tu es ma fille, mon fils, homme, femme, selon mon cœur. Dans Actes chapitre 13, le verset 22, l'apôtre Paul va dire « Dieu suscitera au peuple d'Israël pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Actes chapitre 13, verset 22. Alors si on fait un rapide portrait de David, quelle est la première fois que nous le voyons, à quel niveau? Est-ce que vous vous rappelez? Nous sommes dans 1 Samuel. Oui? Avant même qu'il affronte Goliath. Oui? Quand il a été choisi, c'est juste? Voilà, donc voilà, parce que nous voyons dans la parole de Dieu qu'il est dit Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, exactement. Est-ce que vous savez quel était le métier au départ de David? Il était berger, effectivement. Et il est impressionnant de voir que dans ce travail de berger qu'il a fait tous les jours avec fidélité, eh bien, pendant ce temps et puis dans la suite de sa vie, il a écrit des chansons, il a été en même temps un écrivain. Ensuite, dans sa montée du règne, il est devenu un chef très populaire. Et après, il est devenu général d'armée. Et enfin, roi d'Israël. C'est impressionnant de voir que, alors qu'il ne s'y attend même pas, eh bien, Dieu avait un plan pour lui d'une telle grandeur. Et comme tu le disais très justement, eh bien, à un moment donné, il va y avoir une onction qui va reposer sur lui et le Seigneur va lui parler dans ce sens. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que David, même s'il a eu un parcours exceptionnel, n'était pas un homme saint ou un surhomme. Il avait des contradictions dans sa vie, il avait des défaillances, il avait des fautes, il est passé par des temps de désespoir. Et tout cela, moi je trouve ça magnifique parce que la Bible ne nous cache pas ces états d'âme. Et c'est vrai que quand vous lisez les psaumes, ben vous remarquez qu'il y a eu des montées, des descentes, etc. Et pourtant, Dieu témoigne en disant « Celui-ci est un homme selon mon cœur ». Alors j'aimerais vous apporter ce premier encouragement de la part du Seigneur ce soir, c'est qu'il nous voit. Il nous a choisis, et ce qu'il y a de fou, c'est qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc ça ne dépend pas si on est fidèle ou si on n'est pas fidèle. Il a dit, je veux que celui-ci, fasse partie de mon peuple, devienne mon héritier et puisse hériter de la vie éternelle. Et que dans notre vie, même si on a des hauts, même si on a des bas, même si c'est difficile, il est important de continuer de persévérer. Et ces hommes de l'Ancien, du Nouveau Testament ont beaucoup de choses à nous apprendre. Mais ça ne demeure que quand Dieu met son appel sur nous, sur nos vies. Si nous, nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, je vous disais que dans cette réalité d'un David qui va s'engager dans des compromis, eh bien, il va y avoir à un moment de sa vie une éclipse au niveau de sa foi en Dieu. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 27. 1 Samuel, chapitre 27. Comme c'est un passage assez court, eh bien, nous allons le lire ensemble. Donc on parcourt juste les quelques pages qui viennent avant, mais qui sont déjà toute une vie. David donc a été oint au chapitre 16 par Samuel. Ensuite, il entre au service de Saül, le roi d'Israël, qui a été rejeté par le Seigneur. Ensuite, il y a une guerre avec les Philistins au chapitre 17. Et c'est là que nous connaissons cette victoire éclatante sur le géant Goliath par David. Et puis, il y a une très, très belle amitié qui va se développer avec un des fils de David du nom de Jonathan. Et il va y avoir une grande jalousie de Saül. David va devenir, de par sa victoire, le gendre du roi. Et puis, Saül va attenter à la vie de David et David va être sauvé par sa femme Michal et donc il va devoir fuir et puis une grande partie de son temps il va fuir devant Saül et il va être informé chaque fois par la progression de Saül qui cherche vraiment à le tuer. On voit chez David jamais un sentiment de vouloir se venger ou de faire les choses avant que le Seigneur n'en décide. Et ça, c'est aussi admirable. Il laisse la vengeance au Seigneur. Il ne fait pas les choses par lui-même, alors qu'il aurait eu plusieurs occasions de pouvoir le faire. Et puis, si nous continuons à feuilleter, eh bien, nous apprenons qu'il va dans le désert avec ses hommes, etc. Il est dans une caverne. Il y a la mort de Samuel. Et puis, on arrive à découvrir que David est dans le camp de Saül. Et David épargne encore le roi. Et puis, nous sommes donc au chapitre 27, 1 Samuel 27. Dieu, David, dit en lui-même... « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de m'échapper pour de bon en allant au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Alors David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, pour aller chez Achish, fils de Maok, roi de Gath. Je vous disais en introduction qu'il entre dans une période d'éclipse au niveau de sa foi, puisque dans le début de ce chapitre, il nous est dit « David dit en lui-même « Il n'y a rien de mieux pour moi. » Alors c'est une toute petite phrase comme ça qui peut passer inaperçue, mais il y a une réalité qui est là. Alors que David s'était confié au Seigneur, eh bien voilà qu'il ne parle plus à Dieu, mais à lui-même. Et c'est toujours mauvais signe lorsque le croyant recherche ce qu'il y a de mieux pour lui-même au lieu de souhaiter ce qu'il y a de meilleur, de mieux aux yeux de son Seigneur. Et que de fois, si nous réalisons au niveau de nos vies, eh bien nous permettons à nos petites ambitions, à nos mauvais désirs, à quelques intérêts mesquins de déterminer nos faits et gestes. Donc, David dit en lui-même, « Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. » Et vous savez, quand vous prenez une décision comme celle-là d'aller dans le camp de l'ennemi, eh bien Satan, qui est l'ennemi de Dieu, va vous réconforter dans ce choix en vous disant, « Oui, en fin de compte, tu prends une bonne décision. » Là, cette situation est bouchée, donc ben, va dans le sens de ce que tu as décidé, toi, tu verras, tout va bien se passer. Il n'y aura pas de conséquences, ou très peu de conséquences. Donc tu peux y aller. Et donc le roi David va aller chercher protection chez les plus grands ennemis du peuple d'Israël. Et imaginez qu'il va y rester 16 mois. 16 mois dans un lieu où Dieu ne le voulait pas. 16 mois où il va vivre dans le compromis et dans le mensonge. 16 mois où il a dû être profondément malheureux. Car qui est-ce qui peut être vraiment heureux lorsqu'il s'engage dans une voie que Dieu désapprouve? Et on peut se poser la question, on n'a pas la réponse, si cette expérience qu'il a faite au pays des Philistins en allant se mettre au service de ce roi ennemi, ça l'a pas aidé à composer le psaume 1. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble ce psaume 1, parce qu'il est quand même instructif à bien des niveaux. Et puis, on va y découvrir des vérités que David a découvertes. Psaume, chapitre 1er. Voici ce qu'il est dit. Il commence par un mot qui s'appelle « heureux », heureux », « l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Il la médite jour et nuit, Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs qui mène à la perdition. Durant ces 16 mois passés chez les Philistins, David a fait l'expérience décrite au psaume 1. Marcher selon le conseil des méchants, s'arrêter sur la voie des pécheurs, être assis en compagnie des moqueurs. Et donc, dans cette situation qu'il va vivre pendant 16 mois, il n'était plus en état de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et de la méditer jour et nuit. Il était bien loin de ressembler à cet arbre qui était planté près d'un courant d'eau, donnant son fruit en sa saison. Au contraire, tout ce qu'il a fait ne lui a pas réussi. En se réfugiant auprès de ce roi, David a dû d'abord mentir à Achish, lui laissant croire qu'il n'avait qu'un seul désir dans son cœur, c'était de se venger de Saül, le roi d'Israël, en s'attaquant à son propre peuple. Et ça marche puisque le roi se fie à David et il le prend à ses côtés. Et les 600 hommes vont pouvoir être avec les autres Philistins. Donc, le roi Achish pensait que David se rendait odieux à Israël. En réalité, la Bible nous apprend que David et ses hommes allaient guerroyer dans une autre région du pays. Et pour que aucun témoin ne raconte ses méfaits, eh bien, il tuait des innocents, hommes, femmes, enfants, pour que personne ne vienne raconter la réalité dans laquelle il se trouvait. Donc c'est impressionnant, ça commence par des petites choses. Et l'éclipse que je vous ai montrée tout à l'heure, vous l'avez vu, elle n'est pas d'un seul coup totale. Elle vient tranquillement, Mais à un moment donné, elle obscurcit complètement l'astre divin qui est en fait la lune en ce cas-là, quoi. Et je ne sais pas si vous savez comment vous pouvez faire cuire une grenouille. Si vous la mettez dans l'eau bouillante, eh bien, elle va sauter loin du récipient parce que ça va la brûler. Mais si vous la mettez dans l'eau et puis que progressivement vous augmentez la flamme, eh bien, la grenouille, elle va s'adapter à la chaleur, mais à un moment donné, elle va mourir parce que ça va être trop chaud pour elle. Et avec le diable, c'est comme ça. Dans nos propres vies, il s'arrange pour qu'il y ait des petits mensonges, et en fait, il n'y a pas de petits mensonges, des petits compromis, et en fait, il n'y a pas de petits compromis. Ce sont toutes des choses qui appartiennent au monde des ténèbres, qui doivent être dénoncées. Et si on entre là-dedans, si on continue de marcher sur ce chemin-là, eh bien, on risque à un moment donné, comme David, d'avoir des éclipses qui peuvent des fois durer longtemps, longtemps, longtemps. Rappelez-vous, ça a duré 16 mois pour David. En plus de cela, le mensonge dans lequel il est entré a amené lui et ses hommes à massacrer des populations qui étaient pécheresses, mais quand même innocentes. Et c'est terrible d'avoir ce constat-là, de se dire que quand on entre dans le péché, qu'on persévère, ça peut avoir des conséquences qui sont absolument dramatiques, non seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage, pour tous ceux qui avaient l'espoir de vivre et qui, à cause de notre mauvais témoignage, à cause de nos engagements dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, eh bien, vont souffrir des fois éternellement. Alors, il faut se rappeler que le massacre des innocents ne passe jamais inaperçu aux yeux de Dieu et qu'il rend toujours justice par rapport à cela. Et vous qui écoutez les nouvelles comme nous, vous savez tous ces dictateurs, tous ces gens dans le monde qui, à cause du pouvoir, à cause de quantité de choses qui les habitent, de soif de pouvoir, d'argent, etc., vont massacrer d'une manière terrible toutes ces populations, eh bien, sachez que pour ces gens-là, Dieu a noté ça dans son livre de vie, et puis un jour ou l'autre, eh bien, il rendra justice par rapport à tous ceux qui ont souffert, qui ont été déplacés ou qui sont morts. C'est pour ça que par rapport à tout cet afflux des réfugiés dans le monde, ne soyons pas trop durs en tant que Suisses. Parce que c'est vrai, on est à l'aise, mais c'est vrai qu'on n'aime pas être trop dérangé dans notre confort. Mais ces gens ont le droit de vivre aussi. Ils ont le droit de trouver une nation qui va les accueillir. Alors on ne peut pas accueillir tout le monde en Suisse, mais ceux qui sont là, approchons-nous d'eux, offrons-leur de l'humanité, ils en ont besoin par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Quand j'étais en République de Guinée, la guerre a éclaté au Libéria. J'ai vu arriver des personnes traversant la frontière, mais avec absolument rien. Et quand ils donnaient leur témoignage de ce qu'ils avaient vécu au Libéria, avec cette guerre atroce qui ensuite à passer en Sierra Leone, mais c'était horrible, quoi. Eh bien, ils avaient simplement besoin de quelqu'un qui les accueille, qui écoute quelles ont été leurs souffrances, qui prie et puis qui fasse des pas concrets dans leur direction. Alors, si vous entendez parler autour de vous de personnes qui ont besoin de vêtements, il y a des associations qui s'occupent des immigrés, etc., eh bien, n'hésitez pas à partager ce que vous avez, le Seigneur le dit, ce que vous avez fait pour quelqu'un, eh bien, c'est comme si vous l'avez fait pour moi. Alors, David va vivre un profond dilemme dans cette situation-là, parce que on continue dans le récit biblique, on apprend qu'à un moment donné, les Philistins vont déclarer la guerre à Israël. Et donc, à un moment donné, tout le monde était mobilisé pour pouvoir aller attaquer Israël. David était là avec le roi Achish. Les hommes s'étaient mêlés aux Philistins. Et voilà qu'ils ont ce dilemme de se dire, est-ce que nous allons nous joindre aux Philistins pour combattre notre propre peuple? Si Achish, roi de Gad, n'éprouvait aucun soupçon par rapport à David, eh bien, il nous est dit que les princes des Philistins se méfiaient de ces Hébreux qui, en se tenant derrière les Philistins, pourraient à un moment donné faire un volte-face et puis les frapper dans le dos. Regardons ce qu'il est dit dans 1 Samuel, chapitre 29, les versets 2 et 3. Voici ce qu'il est dit. « Les ducs des Philistins avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses hommes avançaient à l'arrière-garde avec Achish. Les princes des Philistins dirent, mais qu'est-ce que c'est que ces Hébreux ? Et Achish répondit aux princes des Philistins, c'est David, serviteur de Saül, roi d'Israël. Il est avec moi depuis des jours et des années, et je n'ai rien trouvé à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. Mais les princes des Philistins s'indignèrent contre Achish et lui dit, renvoie cet homme et qu'il retourne à l'endroit où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous au combat, afin qu'il ne devienne pas pour nous un adversaire pendant le combat. » Donc il y a un dilemme qui arrive pour David et pour ses hommes de se dire, est-ce qu'on va devoir, maintenant qu'on a caché un petit peu notre drapeau, devoir aller en guerre contre notre propre peuple. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a cette parole dans la Bible qui dit « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, exactement. » Et donc le Seigneur, dans cette situation de compromis, de mensonge, est malgré tout à l'œuvre. Parce qu'il ne veut pas que son serviteur, David, auquel il a promis des grandes choses, auquel il y a un avenir glorieux pour lui, eh bien, s'enfonce davantage dans les choses qui ne sont pas avec lui. Donc il va provoquer une situation pour qu'il ramène son serviteur avec ses 600 hommes sur le bon chemin. Lorsque je suis devenu chrétien, j'ai été, dès le départ, quelqu'un de très zélé pour le Seigneur. Et je le suis, peut-être un petit peu moins. Mais je marchais à fond avec Dieu. Et puis après une année de conversion, je travaillais sur le golf de Lausanne pour l'entretien du terrain. J'ai deux collègues qui me disent, écoute, on prévoit un voyage en Thaïlande. Si ça t'intéresse, tu viens avec nous. Et la Thaïlande est un très beau pays, hein, mais combien dangereux pour des jeunes comme nous. Et j'ai dit, si vous vous occupez de tout, moi je viens volontiers. Alors en faisant mes bagages, j'avais pris ma Bible, j'avais pris un livre qui s'appelle « L'homme spirituel » de Watchmani. Donc j'étais gonflé à bloc et je me suis dit, super, je vais pouvoir évangéliser ces amis avec lesquels je vais aller. Croyez-vous que j'ai demandé au Seigneur sa permission si c'était une bonne chose d'aller là-bas ? Non, pas du tout. J'étais comme David, je me suis dit, ah, ça c'est une bonne occasion pour moi. Hein ? J'ai parlé à moi-même et je me suis dit, ah, mais ça peut être tout à fait sympathique de découvrir la Thaïlande, etc. Et en l'espace de 3 semaines et demie, je suis tombé plus bas que pendant des années où j'ai vécu dans le péché. Et un jour, je me trouvais dans un village sur une île. On avait fait la fête, on avait bu, on avait pris de la drogue, etc. Et je me suis réveillé le lendemain matin et le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur et m'a dit, « Christian, tu as deux possibilités. Soit tu restes ici et je ne suis plus responsable de tes actes, soit tu rentres, tu te réconcilies avec moi et tu repars en étant pardonné vers les choses que j'ai prévues d'avance. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait ? Je suis rentré. Et il y avait encore un passage, c'était la capitale, où j'aurais pu faire encore de grosses bêtises, mais le Seigneur m'a permis et m'a gardé. J'ai dit à mes amis, après avoir reçu cette parole, parce que j'avais goûté combien le Seigneur était bon, combien il m'avait pardonné, combien il m'avait tiré du péché dans lequel j'étais, j'ai dit à mes amis, écoutez, je m'en vais. Ils n'ont pas compris pourquoi, mais j'ai dit, je m'en vais. J'ai pris donc l'avion, je suis rentré à Lausanne, là où j'habitais, et la première chose, le premier endroit où j'ai été, c'est chez mon pasteur. Et je lui ai dit, tu sais Jean-Pierre, je suis parti, j'ai vécu dans le péché, et ça a été extrêmement douloureux, et je veux revenir au Seigneur. Et il a entendu ma confession, et il a pu, de la part du Seigneur, me dire, bah, parce que tu as confessé tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Et ça, c'était absolument magnifique pour moi parce qu'il y avait un tel poids de culpabilité. Alors imaginez, hein, j'étais sur les plages en train de lire la Bible, de lire l'homme spirituel, mais est-ce que j'ai profité ? Est-ce que j'étais comme ce que David disait, un homme planté près d'un courant d'eau, je ne crois pas, qui porte des fruits en chaque saison ? Il y avait un profond malaise parce que ma vie n'était pas juste devant Dieu, quoi. Et j'aimerais, de la part du Seigneur, vous dire, il connaît vos vies, il sait dans quoi vous vous êtes mis. Si vous êtes sur le droit chemin, le bon chemin, continuez de foncer. Mais s'il y a des choses dans vos vies qui ne sont pas à la gloire de Dieu, il est temps, mes amis, il est temps d'arrêter ces choses, de venir au pied de la croix, de demander pardon. Et ça, ça a été une clé chez David qui a fait qu'à un moment donné, il a pu continuer de marcher sur le droit chemin et d'entrer dans son héritage, dans son appel, devenir le roi et devenir pleinement l'homme selon le cœur de Dieu. C'est très important. Mais là où je remercie le Seigneur, c'est que même quand on vit dans une vie de péché qui n'est pas à la gloire de Dieu, eh bien le Seigneur est à l'œuvre. Et le Seigneur est prêt à faire grâce sur grâce sur grâce. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Parce qu'il veut que ses enfants, le jour où il reviendra, n'aient pas à baisser la tête, mais puissent le voir en face et puissent partager avec lui la gloire qu'il avait depuis le début du monde. Donc, Dieu est à l'œuvre pour nous ramener sur le droit chemin. Et donc, David, comme je l'ai dit au niveau du texte biblique, eh bien, Dieu va créer une situation où il va falloir qu'il prenne position. Et comme il était tellement acculé dans sa manière d'être et de faire, il aurait pu se trouver dans une situation extrêmement difficile. Donc, il doit être très reconnaissant, malgré tout, que les princes des Philistins disent qu'il faut le renvoyer avec ses hommes parce qu'il n'a pas eu besoin de prendre position. Il a dû se sentir désolé, hein, mais voilà, au fond de lui-même, il a dit « Ouf, il est temps de rentrer ». Le problème qu'il y a, c'est que quand on lit la suite des textes, on voit que quand il rentre à Tsiklag, là où était sa famille et toutes les personnes qui étaient avec lui dans 1 Samuel 30, eh bien, il y a un grand choc qui les attend. Et j'aimerais juste qu'on lise ensemble 1 Samuel 30, les versets 3 et 4. Même depuis le verset premier, 1 Samuel 30, verset 1. Lorsque le troisième jour, David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Négev et à Tsiklag, ils avaient frappé Tsiklag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville, et voici qu'elle était incendiée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, enfin voilà quoi. Et David fut dans une grande détresse. C'est vrai que quand on s'éloigne du Seigneur pendant quelque temps ou pendant des années, il y a toujours des conséquences, hein, et des fois elles peuvent être dramatiques. Alors Dieu limite les conséquences souvent, mais il est clair que quand vous jouez avec du charbon, vous avez beau jeter le charbon à un moment donné, vous savez qu'il vous reste de la suie sur les mains, hein, et il y a souvent, très souvent, des conséquences par rapport aux choix qu'on a faits. Si c'est des bons choix, c'est des bonnes conséquences. Si c'est des mauvais choix, ce sont des conséquences dramatiques. Et donc, voilà, il y a cette réalité-là. David est au fond du trou, c'est très très difficile pour lui. En plus, ceux qui sont là veulent le lapider, lui faire du mal, le tuer. Et il va y avoir quelque chose d'impressionnant qui va se passer, puisque au comble du désespoir, fort heureusement, il va reconnaître son péché et implorer la grâce de Dieu. J'ai été ami pendant de nombreuses années avec un homme du nom de Jean Daniel, qui était un toxicomane, qui était dans la défonce, mais vraiment dur, quoi. Et c'est un homme qui a eu des hauts et des bas. Il a, à un moment donné, vécu des miracles de la part du Seigneur. Ça a été magnifique. Il s'est marié, il a eu des enfants. Ensuite, il est replongé dans la drogue. C'était vraiment difficile. Et en fin de compte, il a été jeté en prison. Et ouais, c'était lourd ce qui se passait pour lui, quoi. Pourtant, un homme qui avait aimé Jésus, etc. Mais il y avait encore des choses, des brèches dans sa vie qui ont fait que c'était difficile. Il y a même un livre qui a été écrit sur sa vie. Et du fond de la prison, alors qu'il était dans un profond désespoir, doutant de l'amour de Dieu pour lui, la voix du Seigneur était dans son cœur et lui a dit: Jean Daniel, toi qui es père de famille, tu es déjà étonné de voir que le Seigneur s'adressait à lui, alors à cause de tout ce qu'il avait fait. Il lui a dit, le Saint-Esprit lui a dit: quand tes enfants sont tombés, qu'est-ce que tu as fait? Puis il a dit: mais je les ai relevés, je les ai encouragés à pouvoir marcher de nouveau, à continuer. Et le Saint-Esprit lui a dit: eh bien, pour moi, j'ai vu aussi le nombre de fois où tu es tombé. Mais je ne comptabilise pas cela. Je veux simplement te dire, il est important maintenant que tu te lèves et puis que tu te réconcilies avec moi et que tu marches de nouveauté en nouveauté de vie. Jean Daniel a pu sortir de prison, fort heureusement. Malheureusement, son foyer avait été détruit, donc il n'a pas pu revenir en arrière. Mais aujourd'hui, c'est un homme libre. Et j'ai aucune nouvelle de lui, mais j'espère que ce que le Seigneur a fait dans sa vie est suffisant pour qu'il continue de marcher en nouveauté de vie. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que David va rentrer en lui-même, va demander pardon pour ses fautes. Il va passer par une vraie repentance. Il pleure d'avoir failli. Il reconnaît les dégâts causés par le piètre témoignage qu'il a eu. Et il confesse au Seigneur ce qui ne l'a pas glorifié. Mais il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a élever ses regards vers Dieu. Et dans la suite, il s'est appuyé sur lui pour continuer de marcher. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la suite du récit, c'est que nous apprenons que le Seigneur va lui permettre de retrouver sa vocation de combattant, lui et ses 600 hommes, et il va les amener sur le chemin de la victoire, puisqu'il va aller délivrer ses femmes et puis tous ceux qui se sont fait enlever. Et puis, il va y avoir une magnifique victoire. Persuadé pleinement de la volonté de Dieu à son égard, David se met en route sur l'ordre de l'Éternel parce qu'il entend cette parole « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras ». Eh bien, je termine avec cette parole en disant qu'il en soit de même pour chacun, chacune d'entre nous. Le Seigneur, une fois de plus, nous étonnera par ses exaucements, par ses interventions souveraines et par l'ampleur de ses victoires. Ça vaut la peine de persévérer. Que Dieu vous bénisse. Amen.